L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM à la fois ancestral et plein d'avenir, une émission végétale et technique, du patrimoine ancien qui devient du futur de haute technologie, de plantes en particulier, le lin et le chanvre. Des plantes dont les fibres sont précieuses, dont les graines sont prisées, d'un côté des enclos paroissiaux et de riches manoirs qui viennent de la richesse passée associée au lin, de l'autre un grand champ des possibles pour continuer à utiliser le lin mais aussi le chanvre dans de très nombreuses applications. On n'imagine pas forcément tout ce qu'on pourrait leur devoir à l'avenir. Pour que nous comprenions bien l'enjeu, il existe une association, un réseau, Lin et Chanvre en Bretagne, dont le directeur est l'invité de l'émission. Bonjour François Dobzhinsky, c'est ça, j'ai bien prononcé votre
nom ? Oui, c'est très bien. Bonjour.
Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'est cette association Lin et Chanvre en Bretagne ? Quelles sont ses différentes missions ? Parce que je crois qu'il y en a plusieurs.
Alors Lin et Chanvre en Bretagne est né... autour de 2005, en fait, autour de plusieurs initiatives de redécouverte, notamment du patrimoine ligné, et notamment à Landerneau, puisqu'il y a eu une année du lin, et il y a un livre qui a été sorti en 2005 qui s'appelle « L'or bleu », puisque c'est en rapport avec la couleur des fleurs de lin.
Ah oui, elles sont bleues plus souvent que blanches, parce qu'elles peuvent être blanches, je crois, non ?
Elles sont bleues, en fait.
Ah d'accord, okay. Je croyais qu'il y en avait des blanches aussi.
Donc si vous avez la chance de voir un champ de lin, c'est très très beau d'ailleurs, parce que ça ondule avec le vent et c'est tout bleu. Et voilà. Et puis progressivement, donc il y a eu cette prise de conscience, et puis la constitution ensuite d'un réseau avec d'autres associations et d'un réseau au niveau breton. Donc aujourd'hui, le siège de l'association est à Landerneau. L'association est présidée par André Le Gall-Sanquer, qui est là depuis l'origine et qui est la grande référente de l'association et sur toutes ces thématiques. Qui n'a pas pu être là aujourd'hui, elle aurait bien aimé, mais elle était retenue par d'autres activités.
Elle est très occupée, mais elle viendra, tôt ou tard elle viendra.
Ça, c'est sûr.
Elle est très calée dans tout ce qui est la partie patrimoine-histoire, mais en fait ce qui est intéressant, c'est que votre réseau est aussi vraiment orienté vers le présent et puis le futur même, c'est ça ?
Alors c'est vraiment l'enjeu de l'association. Ça a toujours été de dire qu'on s'attachait au passé, au présent et au futur de ces deux plantes. Jamais ça a été compartimenté. Et c'est ce qui fait la force du réseau, puisqu'on a à la fois des associations ou des musées qui s'attachent au patrimoine du lin et du chanvre. Et ça va jusqu'à des instituts de recherche, comme l'Institut de recherche du Puy-de-Lôme à Lorient, qui travaille sur les matériaux composites.
Ah oui, c'est quoi ? C'est un organisme qui est rattaché à une fac ou...
Oui, c'est l'Université de Bretagne Sud.
Très bien, on connaît moins bien parce que c'est Lorient. Et vous avez aussi des entrepreneurs, c'est ça en fait, qui sont membres de l'un et chanvre en
Il y a
Bretagne.
Aussi des entrepreneurs, alors qui peuvent être entrepreneurs de différentes façons. Hein. Ça peut être des artisans, comme les tisserands à bras, là, qui sont vraiment sur l'artisanat du tissage. Et ça va jusqu'à d'autres entrepreneurs comme alors on va dire, c'est pas vraiment des entrepreneurs, mais des architectes, des maîtres d'œuvre, ou gens avec qui on travaille, par exemple Nanovia, qui produit du fil d'imprimante 3D renforcé à la fibre de lin.
Alors justement, c'est un peu le sujet de cette émission, c'est les usages plutôt. Alors les usages du lin et du chanvre, ce qu'on connaît bien en Bretagne, justement, qui était ancestraux, c'était de faire du tissu essentiellement, c'est ça, la toile.
Oui.
Ça, c'est toujours faisable. Ça existe toujours, cette industrie-là
Alors, l'industrie, elle existe toujours, mais elle n'existe plus en Bretagne. Le textile de lin et de chanvre a disparu.
Complètement. Sauf les tisserands dont vous parliez.
Voilà, quoi. Quasiment. Ouais. Et en tout cas, toute la filière a disparu. C'est-à-dire qu'on ne... Alors, sauf peut-être des toutes petites parcelles, mais on ne cultive plus de lin textile et de chanvre textile en Bretagne. Les deux régions en France où on retrouve le textile, c'est la Flandre et la Normandie.
Bon, il y en a quand même encore une en France.
Voilà, il y en a encore une en France, mais par exemple, les filatures avaient quasiment disparu. On dit que avec ces deux régions-là, on produit à peu près 80% du lin mondial, mais quasiment la totalité part en Asie pour être transformée. Donc on avait perdu, par exemple, les filatures. La première filature française à revenir sur le sol national, c'est 2020.
Ah oui, c'est vraiment du... Voilà. Là, on est en plein dans l'actualité, finalement.
C'est Pierre Schmitt, dans l'Est, qui croit en ces fibres depuis longtemps et qui réussit à relancer la filature. Et il y en a une deuxième qui vient de se créer... Voilà.
Il n'y a pas de projet en Bretagne pour l'instant.
Alors si, il y a un projet en Bretagne. Enfin, il y a une volonté politique qui s'est faite jour récemment. Elle émane de Sandrine Lefeur, la députée de Morlaix, qui a fait un appel à contribution pour relancer la filière textile. Et son espoir, c'est qu'une filature se crée à nouveau. À Morlaix.
Elle est agricultrice. En fait, son appel, c'est vraiment pour la filature, c'est pas seul aussi pour la production, enfin la culture du...
Alors c'est l'ensemble, en fait.
D'accord. Elle veut vraiment une filière en Bretagne,
voilà,
en fait.
Elle veut une filière avec des agriculteurs qui produisent du lin et tout le cycle de transformation. Parce que c'est la particularité de ces deux plantes, c'est qu'il y a un besoin de transformation qui est important. Alors, qui se faisait entre le XVIe et le XVIIIe siècle de manière très artisanale et très locale.
On va renvoyer nos auditeurs sur l'émission qu'on avait faite sur le Candy de Comana, qui a été reconstitué, où tout est expliqué sur la transformation, en tout cas pour le lin, pour le chanvre, je ne sais pas si c'est différent.
C'est assez proche, en fait. Il y a certaines parties qui le sont moins, mais c'est pour ça qu'on parle souvent de ces deux plantes en même temps. C'est qu'en gros, pour extraire la fibre est autour du bois de la tige. Donc, il faut séparer la fibre du bois, etc. etc.
Ouais, il y a des étapes.
Jusqu'à la filature, voilà. Et donc, qui sont des étapes... C'est intéressant aussi parce qu'elles sont entièrement mécaniques. Il n'y a pas de procédé chimique là-dedans.
Oui, il n'y a pas de pollution à la clé, c'est ça que vous voulez dire quelque part aussi. Ouais. Et ça, c'est quand même, ça a été mécanisé. Enfin, maintenant, on peut le faire industriellement. Voilà, on n'a plus à faire tout ça à la main, n'est-ce pas? Donc.
Absolument. Et maintenant, après, c'est industriel. Alors, pour ce qui est de la filature et du tissage, on a eu d'ailleurs au 19e siècle, c'est là où ça a commencé à changer. À Landerneau, s'est créée la Société Linière, qui était une grosse usine de production, de tissage qui a fonctionné pendant quelques dizaines d'années. Et puis, à d'autres endroits, dans le Trégor, par exemple, on n'a pas trouvé de capitaux suffisants pour faire une grosse usine. Donc, on avait des petites unités de production, des taillages, et qui ont perduré plus longtemps. Puisque le dernier tailleur, c'est dans la fin des années 70 qu'on les trouve. La société linière a disparu depuis longtemps.
Le taillage, c'est quoi? C'est d'effilocher la plante, c'est ça?
C'est ça, c'est de récupérer, c'est de récupérer la fibre.
Donc, on pourrait reconstituer une filière intégrale, lin-chanvre, c'est-à-dire donc de la production au tissage, c'est ça? L'appel de la députée, c'est quel financement? C'est jusqu'à quand? Comment ça va se dérouler concrètement?
Alors, l'idée de Sandrine Lefeur, alors il faudrait d'ailleurs
on l'invitera à l'occasion.
Oui, je pense que ce serait intéressant. C'est de se baser aussi sur le plan de relance du gouvernement. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de complexe de bâtir une filière parce qu'il faut que ça soit bâti sur le long terme. Aujourd'hui, entre le fait de, entre guillemets, réapprendre à des agriculteurs à cultiver le lin, puisqu'elle parle surtout du lin, mais le chanvre, c'est peut-être un tout petit peu plus simple, avec le rouissage sur le champ, etc. C'est des techniques qu'il faut réapprendre.
Parce que là, il n'y en a plus de cultivateurs, on va dire, de lin textile, en tout cas, en Bretagne.
De lin textile, il n'y en a plus. Et puis ensuite, toutes les étapes de transformation jusqu'à la filature et au tissage, puisque l'idée, c'est de travailler aussi pour l'industrie du luxe. C'est ce qu'elle dit. C'est quelque chose de très conséquent. Nous, on a tendance à penser aussi qu'il faut peut-être s'appuyer dans un premier temps sur les autres régions qui ont déjà commencé le travail. Pour vous donner une idée, Pierre Schmitt, là, qui a relancé une filature, va chercher les matières premières hors de sa région, dans des régions qui produisent déjà. Et puis, il y a aussi cette idée de rester solidaire de tout le secteur, puisque si on bâtit une filature alors que les débouchés ne sont pas encore là, eh ben ça peut désorganiser une autre région qui a fait déjà cet effort-là depuis un moment. On a l'exemple de certaines chanvrières. Donc les chanvrières, c'est les industries qui transforment le chanvre, qui ont parfois été financées massivement par des fonds publics et qui n'ont pas trouvé leur débouché, et où ça a été très très difficile pour que ça perdure.
Donc une chanvrière, c'est elle fait du fil, c'est ça ?
Ou elle fait carrément du tissage. Elle aboutit à la fibre.
À la fibre.
Fibre travaillée. Ensuite, ça va être.
C'est une filature après. Ensuite, d'accord. Filature. Oui, parce que c'est ça. En fait, les transformateurs, en fait, il y en aurait combien ? En fait, il y en aurait trois. Enfin, si je comprends bien, c'est ça. Il y aurait celui qui fait la fibre, qui.
Voilà, qui sépare, qui produit la fibre, et puis ensuite il y a la filature, puis le tissage, etc.
D'accord. Et on peut être une filature tissage, peut-être, non ?
Alors après,
non,
ça peut s'agréger, ça. D'accord. Mais c'est des métiers quand même qui sont très spécifiques. Donc voilà, ça c'est toute la complexité de la chose. D'autant qu'il y a aussi dans les produits qui sont issus de cette transformation. On a coutume de dire, notamment pour le chanvre, que rien ne se perd dans la plante, que ce soit d'ailleurs le lin ou le chanvre.
Aussi, ouais.
On peut utiliser le lin depuis la tige jusqu'à la graine.
Ouais, c'est ça.
Après, il y a encore du chemin à faire, puisque aujourd'hui, dans les variétés qu'on cultive, certaines variétés sont cultivées pour la graine, et donc couper à un moment où la maturité n'est pas suffisante pour récupérer la fibre.
Ah oui, donc on ne peut pas faire l'un et l'autre, cultiver pour la fibre et pour la graine.
Mais les agronomes sont en train de travailler sur des nouvelles variétés qui pourront permettre de l'utiliser entièrement.
Elles seraient prêtes quand, ces variétés?
Alors
à peu
ça, on ne sait pas
exactement. C'est l'INRAE, en gros, qui travaille là-dessus?
Oui, il y a des semenciers aussi. Semenciers de chanvre, ils sont du côté d'Angers.
Bon, c'est pas très loin, en fait, tout
non,
ça,
non,
la Normandie, l'Anjou.
Tout ça est possible. Mais, et donc, par exemple, avec le bois, la chaîne VOT, le bois du chanvre, on va avoir tous les produits qui sont utilisés dans l'éco-construction. Donc ça aussi, c'est un débouché qui pourrait être énorme, notamment la Barbara Pompili, la
ministre de l'Environnement,
de la transition écologique. Oui, ils viennent de publier la RE 2020, donc les nouvelles normes pour l'habitat, avec des perspectives pour la norme future. Et ils préconisent d'utiliser beaucoup plus massivement des matériaux biosourcés.
Bon.
Donc, dont le chanvre qui est utilisé dans le béton de chanvre. Alors, le béton de chanvre, c'est quelque chose qui a été créé il y a quelques dizaines d'années et qui est un matériau assez extraordinaire. C'est un peu un matériau magique.
Ah, on aime bien les matériaux magiques.
C'est cette chaîne VOT qui est en granulé, si on veut, et qui est à laquelle on additionne un liant. Et on peut faire avec cela de l'isolation, souvent en intérieur et pour la rénovation, par exemple. Alors, il a plein d'atouts. C'est un très bon isolant phonique, c'est un bon isolant thermique. Il a une résistance au feu assez incroyable. Cette année, il y a eu des tests au feu qui ont laissé un peu pantois les testeurs. Il est très léger. Il y a un bâtiment qui a été fait entièrement doublé en béton de chanvre à Paris. Et le marché a été obtenu parce que ça a permis d'éviter de faire des fondations profondes, ce qui est très coûteux en pleine ville, parce que le bâtiment était beaucoup plus léger.
Ah oui.
Et il est très léger. En fait, il n'est pas porteur, donc il y a toujours une structure. Mais voilà, il est beaucoup plus léger que d'autres matériaux. Et puis enfin, il a une particularité chimique que je ne maîtrise pas encore totalement bien, mais il régule l'humidité.
Le béton de chanvre.
Le béton de chanvre, c'est-à-dire D'accord. que la chaîne Vogt, le bois du chanvre, peut se charger de 4 fois son poids en eau.
Ah oui, c'est absorbant.
Voilà, ce qui fait que l'hiver, les murs vont absorber l'eau. Et puis, c'est là où je ne maîtrise pas bien, c'est que ça le transforme dans un état particulier de l'eau. Et l'été, donc on va avoir une sensation de confort. Et l'été, ça va rendre cette eau et donner une impression de fraîcheur.
Ah oui, donc en plus de régulation hygrométrique, enfin, je ne sais pas comment on dit exactement. Et donc, alors, ça, c'est une des utilisations donc, du chanvre magique, on va dire. Sinon, en fait, on a parlé des tissus. Les tissus, bon, évidemment, c'est le textile, les vêtements, mais pas seulement, j'imagine.
Alors, il n'y a pas seulement. On ne fait plus beaucoup de voiles comme c'était le cas auparavant. Mais par exemple, avec les tissus de lin ou de chanvre, il y a tout le travail... de Roland Jourdain à Kairos, à Concarneau, par exemple, sur leur but, c'est de pouvoir remplacer la fibre de verre qu'on utilise pour les bateaux, qu'on n'arrive pas à recycler, par des bateaux en lin ou en chanvre. Et c'est des tissus de lin qui sont transformés avec une résine pour faire ces bateaux. Ils viennent de sortir un matériau, d'ailleurs, qui s'appelle le kerlin, qu'on peut utiliser...
Avec du lin, je suppose.
Voilà, avec du lin, qu'on peut utiliser dans l'ameublement, qu'on peut utiliser aussi comme support d'impression pour des expositions ou autres, et qui est entièrement recyclable. On peut, alors, ils ont même fait des tests, ils le laissent à l'extérieur, et au bout de quelques mois, voire quelques années, ils se transforment en compost. Il y a une grande marque de cosmétiques qui a utilisé ce matériau dans un des jardins qu'elle possède. Et tous les cartels des plantes sont dans ce matériau-là. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, le matériau se désagrège et serve de compost pour les plantes. Et on remplace le matériau. Bon, après, si c'est en intérieur, là, ça a une
durée. Oui, ça peut durer, j'imagine. Ouais. Ouais.
Et c'est un matériau qui est très beau. Alors moi, mon préféré, c'est la version noire, parce que c'est très sombre, et puis on voit le dessin de la fibre de lin un peu plus clair à certains endroits. Voilà. Donc ça, c'est des matériaux qui sont faits aussi, qui sont faits en Bretagne et qui sont en commercialisation actuellement.
Et vous parliez d'impression 3D, donc comment ça se présente, une impression 3D en lin ou en chanvre?
Comme d'autres impressions 3D, ce qui est gardé, c'est dans la fibre de lin, les deux fibres, ce qu'elles ont de formidable, c'est qu'elles sont à la fois très résistantes, qu'elles sont souples et qu'elles sont légères. Donc, c'est pour ça qu'on l'a utilisé dans l'impression 3D, pour notamment pour la solidité et l'élasticité. Mais comme Decathlon avait fait en son temps, je crois qu'elle est toujours vendue, une raquette de tennis renforcée en fibre de lin. Il y a beaucoup de...
Mais dans l'impression 3D, j'arrive pas à me représenter. C'est sous forme liquide et puis c'est...
Ah non, l'impression 3D, c'est toujours une sorte de filament, comme une bobine de fil.
Ouais, d'accord.
Qui va être chauffée et qui va permettre l'impression.
D'accord, mais c'est quand même un peu fondu si c'est chauffé. On peut fondre une fibre textile, c'est ça que j'ai du mal à imaginer, mais bon, enfin...
Alors ça, après, c'est...
Oui, c'est peut-être un peu trop technique comme question,
oui,
hein, je comprends.
Oui, mais bon...
D'accord.
Et donc, ça a été fait dans l'Institut de recherche du Puy de l'Aume, et notamment sa plateforme technique qui s'appelle Compositique, qui est à Lorient. Et ils ont une plateforme qui leur permet de mettre au point et de tester des process jusqu'à une industrialisation. Quand ça sort, c'est prêt à être industrialisé. Ils ont fait énormément de recherches de ce point de vue-là.
Et dans la construction, à part le chanvre, le béton de chanvre magique, qu'est-ce qu'on peut utiliser justement de ces plantes?
Ah ben alors après, il y a des laines aussi. Hein. Il y a de la laine de chanvre et de la laine de lin qui ont les particularités des laines. Et puis avec l'atout de, d'être très écologique.
Bien sûr.
Je reviens sur le béton de chanvre. Son intérêt aussi, c'est que si vous avez un dégât des eaux, avec un doublage en laine, quelle qu'elle soit, ben, la laine, il faut l'enlever.
Oui.
Et la remplacer. Le béton de chanvre, il va prendre l'eau, mais il va sécher.
Il ne va pas pourrir,
il va sécher et ensuite on peut repartir. Donc c'est beaucoup plus durable aussi.
Ah oui, là ça a l'air en effet assez magique, assez formidable. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations alors peut-être, là je ne sais pas, bon, on n'a pas parlé évidemment de nutrition, de tout ce qui est graines de lin, graines de chanvre, parce que comme vous dites, il faut choisir entre la partie textile et la partie graine, mais ça pourrait être intéressant aussi d'un point de vue nutritif.
Voilà, et ça existe déjà, hein, notamment les auditeurs connaissent peut-être Bleu Blanc Cœur, cette association dont on voit le logo sur pas mal de produits. L'idée des fondateurs de l'association, c'était de se dire que, vu qu'on mangeait des produits issus de l'élevage animal, il valait mieux que les animaux soient bien nourris pour que les humains soient bien nourris. Donc c'est comme ça qu'on trouve des œufs bleu blanc cœur, du lait bleu blanc cœur, etc.
Donc ils sont nourris aux graines de lin, c'est ça ?
Ils sont nourris aux graines de lin, en lien avec l'industrie aussi, puisque c'est l'entreprise Valorex qui a de l'extrusion à chaud des graines de lin. Et ce qui permet. Et alors, dans le Finistère, d'ailleurs, il y a l'entreprise Tromelin qui a depuis peu une petite unité d'extrusion de graines. Puisque c'est dans un cadre plus large, en fait. Il y a eu un gros accord entre Eureden, ex-Triskalia, Valorex et Tromelin. Pour se mettre en commun, c'est pour l'indépendance protéique du pays.
Parce que c'est ça l'avantage des graines, c'est qu'elles sont riches en protéines, c'est
alors, ça ? Notamment la graine de chanvre qui bat un peu tous les records, puisqu'il y a à peu près 30% de protéines dans la graine.
Et elle est digeste comme ça ou est-ce qu'il faut la réduire en farine ?
Alors il vaut mieux la réduire en farine ou en huile. C'est pour ça que je vous ai ramené.
Je précise aux auditrices, aux auditeurs qu'on a mangé un délicieux gâteau au chocolat avec de la farine de chanvre et pas seulement de la farine de blé aussi, mais bon, c'était très bon.
Et donc ça, c'est la farine de chanvre qui vient de Pont-Aven. Hein, c'est Philippe Loussouarn, un producteur qui transforme lui-même ses graines de chanvre en huile et en farine qu'on peut retrouver notamment dans les biocoop et dans tout. Le réseau. Mais il y a sans doute une possibilité de massifier aussi cette production pour que davantage de consommateurs puissent y accéder.
Ouais, donc c'est protéines, oméga 3 ou 6 peut-être, non ?
Oui,
qu'est-ce qu'il y a comme vertu encore ?
C'est ça. Alors il y a plein d'autres vertus. Alors sur les vertus de la graine et de la fleur, alors vous m'excuserez, je ne suis pas encore complètement...
parce que je ne suis
arrivé qu'il y a quelques mois. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de débats, et notamment de débats politiques autour de la fleur de chanvre en ce moment, puisque c'est la question du CBD, entre guillemets.
Cannabidiol.
Contre le THC. Et là aussi, il y a un travail de recherche sur les variétés pour qu'il y ait, entre guillemets, que du CBD, mais comme il y a l'association dans l'esprit commun avec les stupéfiants, voilà, c'est pour ça que s'il y a de grands débats en ce moment, on ne sait pas exactement comment ça finira. Il y a certains pays européens qui ont déjà ouvert un peu les vannes de ce côté-là.
Parce que le cannabidiol, ça a des vertus, on va dire, analgésiques, c'est ça enfin,
Oui, alors il y a énormément de...
Contre la douleur
ou... Alors ça, ouais. si un jour...
On invitera quelqu'un spécialement.
Si un jour, nous avons la chance, par exemple, d'avoir quelqu'un comme Christophe Latouche qui travaille là-dessus depuis très longtemps.
Oui, tout à fait, il est connu.
Connu et puis il est passionnant, mais bon, il y en a d'autres qui vous expliquera ça mieux que moi. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le chanvre est déjà utilisé dans les cosmétiques, par exemple. On a une entreprise en Bretagne qui s'appelle Makibel, dont il y a déjà quelques magasins, notamment, moi j'en connais un, Morlaix, où certains produits sont enrichis au chanvre pour les propriétés que ça peut apporter.
Et donc version graine alors, plutôt.
Voilà,
d'accord.
Ouais, ça c'est très plutôt bien. La graine.
Bon, bah, on va devoir s'arrêter là parce que l'émission arrive déjà à sa fin, mais lin et chanvre en Bretagne reviendra, c'est promis, parce que le sujet est loin d'être épuisé. Merci François Dobzhinski et à
bientôt. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.